J'ai été touché ces derniers temps par des versets dans lesquels il nous est dit « Il vaut mieux ceci plutôt que cela ». Et le message qu'il nous a apporté, ce sera sur trois de ces « mieux vaut que », qui renvoient finalement à nos choix, qui renvoient à des priorités, à ce qui est important, ce qui est essentiel de notre vie, ce qui est au fond de notre cœur. Et puis finalement, c'est aussi des prises de conscience à un moment donné, ça c'est plus important que ça, et ça nous aide aussi dans notre manière de vivre, de faire des choix et de faire face aussi à ce qui nous arrive. Donc il n'y en a pas simplement dans la Bible, en particulier dans les proverbes, il y a beaucoup de ces « mieux vaut que ». Et avant d'aborder ces trois que j'ai choisis, on va prendre un premier chant qui nous dit une chose. Ça, c'est le titre. Donc, c'est un chant qui exprime ce qu'on souhaite certainement toutes et tous, c'est apprendre à connaître Jésus, qui est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus et qui souhaite ce soir nous rencontrer, nous parler, nous écouter, nous émerveiller. Alors, une chose. Je vous invite à vous lever. Alors le premier « un jour », c'est « un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Qui c'est qui ne connaît pas ce verset? C'est un verset très connu. Je vais avancer, c'est moi de faire là, je crois. Voilà. Non, je reviens en arrière. Voilà. « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». On va lire un extrait autour de ce passage, donc c'est dans Psaume 84, les versets 10 à 12a, vous pouvez aussi suivre à l'écran. « Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. » Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Ce psaume, il a été écrit par les descendants de Corée. Alors, je ne sais pas si vous allez des fois voir qui est-ce qui écrit les psaumes. C'est des descendants de Lévi, donc c'est des Lévites. Et la particularité des Lévites, c'est qu'ils n'avaient pas de territoire. C'était eux qui étaient les gardiens, les responsables du service du temple. C'est aussi parmi eux qu'il y avait des musiciens, qu'il y avait des chantres, qu'il y avait des compositeurs de psaumes, comme ce psaume dont on a lu un extrait. Et ce qui est particulier, qu'on ne sait peut-être pas, c'est que Corée, donc le père de ses descendants de Corée, il s'était révolté contre Moïse et Aaron. Dans Nombre 16, il nous parle de ça, ce qui lui a coûté la vie. Donc il s'est révolté contre eux, elle était due au fait qu'il ne reconnaissait pas l'onction et l'autorité qui reposait sur Moïse et aussi sur son frère, le prêtre Aaron. Ils avaient déjà une place particulière en tant que lévites, de servir dans le tabernacle d'abord, plus tard dans le temple, mais c'est comme s'ils convoitaient aussi de devenir prêtres, comme Aaron. Il nous a parlé ici d'un bouclier, et bouclier c'est une protection, on en parle aussi dans le Nouveau Testament, le bouclier de la foi, mais j'avais l'impression ici que pour eux, quand ils prononcent ça, ces fils, ils ont été protégés. Peut-être ils se souvenaient aussi qu'ils ont été protégés du fait qu'ils n'ont pas subi le sort que leur père a subi. Ils n'ont pas subi les conséquences, finalement, de cette rébellion de leur père contre Moïse et Aaron. Il nous a parlé qu'il est notre soleil, donc c'est quelque chose d'indispensable à la vie, de la nature, le soleil, comme pour nous, Dieu est indispensable pour notre vie spirituelle. Celui que tu as désigné par onction, ici il parle du roi David. Alors pour nous aujourd'hui, c'est Jésus qui était le loin, qui était l'envoyé. C'est lui qu'il est rappelé ici, celui que tu as désigné par onction. Les parvis, donc c'est tout ce qui était autour du temple, les cours, il y avait différents niveaux aussi, différentes catégories qui entouraient ce temple. Et puis les psalmistes, ils disaient aussi, ou le psalmiste, nous préférons largement nous tenir là, dans ses parvis, même si ce n'est que le seuil, que ailleurs. C'est comme si la convoitise du passé, il voulait devenir prêtre, Elle semble être remplacée par une reconnaissance. Mais c'est déjà excellent, on est dans les parvis du Seigneur. Les prêtres, ils ont une autre fonction. Ils entrent dans le temps, ils entrent à l'intérieur. Nous, on est là et on préfère être là qu'être partout ailleurs. Alors, vous savez, aujourd'hui, la présence de Dieu, elle n'est pas seulement au temple. Bien sûr, elle est dans notre temple ici, par le Saint-Esprit. Mais elle est partout, ce qui rend la chose plus simple, plus immédiate. On est en contact avec Dieu, plus génial, j'ai envie de dire. Et en même temps, ça nous défie parfois de savoir mais où et comment rencontrer Dieu. J'imagine, à l'époque, c'était clair, hein, il fallait rencontrer Dieu, on allait au temple. On ne discutait pas, c'était, voilà, il y avait comme un lieu dédié. On aimerait des fois avoir ça, un lieu, c'est là qu'on va rencontrer. Là, c'est moi, là, c'est les autres, Dieu est là. Donc c'est quelque chose de génial et en même temps quelque chose qui peut parfois nous défier aussi. Donc avons-nous besoin de lieux pour rencontrer Dieu? Avons-nous besoin d'un temple, hein, comme au temps des descendants de Corée? Alors pas de manière absolue, hein, car fondamentalement Dieu est présent partout où se rassemblent les chrétiens. J'avais dû faire un exercice durant mes études, il disait « mais qu'est-ce qu'est le minimum pour être une église ?» Essayez de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une église? Alors on réfléchissait, puis finalement il n'y a pas grand-chose, hein, dans le Nouveau Testament pour qu'on soit considéré comme une église. La définition la plus basique, c'est un rassemblement de chrétiens autour de Jésus forme l'église. Donc voilà, ce premier « vaut mieux » répond à la question « mais où est-ce qu'il faut aller ? Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Quel choix il faut faire ?» Aujourd'hui, nous avons fait le choix, vous avez fait le choix de passer 2 heures ici ensemble, dans un temple en plus. Quelle valeur a ce rassemblement pour nous ? Vous avez peut-être hésité, j'y vais, j'y vais pas. Et au final, vous avez décidé de venir et je vous félicite. Car le rassemblement autour de Dieu, c'est une bénédiction. Ça a de la valeur. Vous avez préféré être là plutôt qu'ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple et ce n'est pas forcément évident. On parlait de la fidélité au culte l'autre fois au conseil. Quels gens mettent, alors je ne dis pas qu'on faut commencer de contrôler, mais la fidélité à un lieu, à un engagement, avec tout ce qu'on a, avec tous les agendas qu'on a, avec toutes les possibilités de se dire, je prends un temps, 2 heures de ma semaine, pour aller me rassembler avec mes frères et sœurs pour le culte. Et puis c'est en étant ensemble, hein, rassemblés, que nous réalisions aussi que Dieu est notre bouclier, comme il est dit dans ce psaume, qu'il est notre soleil, notre source de vie, qu'il nous révèle celui qu'il a désigné par onction, Jésus. Et bien que cette présence de Dieu qui a cette valeur, la communion que nous avons avec lui, et puis les uns vers les autres, devienne une priorité, hein, qui prend de la valeur à tel point de devenir 1000 fois, alors 1000 ça veut dire quoi? J'ai l'impression que ça veut dire infiniment plus, 1000 fois infiniment plus important que tout autre choix. La relation avec Dieu. Je suis en train de lire un livre sur la prière et je trouve très intéressant de voir tous les aspects de la prière. Finalement, en prière, on est en relation avec lui et comment on peut développer des moyens d'être en relation avec lui, d'être dans ses parvis, d'être en relation, en contact avec lui. Et plus on développe, plus on se rend compte que c'est important et qu'on en a besoin. Et que finalement, j'ai l'impression qu'on... En tout cas, moi, je passe des temps avec Dieu dans mon culte. Je ne me suis jamais dit, mais si j'avais fait autre chose, ça aurait été mieux. C'est comme dans les relations d'amour avec quelqu'un. Passer du temps avec quelqu'un qu'on aime, en général, on ne le regrette pas. Je ne sais pas comment vous dites. En général, on ne le regrette pas. On dit, mais j'ai passé du temps, et je devrais même passer plus de temps parce que c'était tellement génial. Hein. Donc c'est un peu ça. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Et je pense que ces fils de Corée, c'est ce qu'ils avaient réalisé. Et là, je rappelle, hein, ils n'avaient pas encore la présence du Saint-Esprit en eux partout. Ils allaient à un lieu. Alors on va prendre ce chant bien connu pour illustrer ça. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est un chant que j'avais longtemps plus joué, mais c'était un tube à une époque. Hein, je crois qu'on le prenait à tous les cultes. Alors là, on l'a longtemps plus pris, on le réactive un petit peu. Et il est bien dans le thème. Alors un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. « Le deuxième vaut mieux que, c'est ta bonté vaut mieux que la vie. C'est un verset que j'ai toujours eu un peu de la peine à le comprendre. Hein. Je ne sais pas comment vous, c'est un peu bizarre. On va le lire d'abord, on va lire un peu plus long que juste le verset. C'est dans Psaume 63, les versets 1 à 8. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit, oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Ce psaume qui est écrit par David, il était dans le désert de Juda quand il a écrit ça. C'est un détail qui n'est pas anodin. Un désert, je ne suis pas au milieu du Sahara, mais j'ai déjà un peu vu des contextes désertiques. C'est quand même un contexte hostile. Il n'y a pas de vie, ou alors très peu. Les quelques plantes qui arrivent à vivre sont très rares et très spéciales. Ça veut dire que David avait certainement ici une soif déjà humaine et physiologique, mais ça a aussi éveillé en lui la soif de son âme. Tout en lui a soif, son âme, son corps, et dans cet état, il soupire après Dieu, comme il est dit, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et c'est dans cet état de faiblesse, de vie qui diminue, j'ai jamais vécu ça, mais à un moment donné, on sent la vie qui part. Elle peut devenir perceptible quand on atteint une faiblesse extrême. De risque finalement, hein, qui meurt, David qui déclare « Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté a plus de valeur que la vie qu'on peut perdre à tout moment. » Ça, c'est mon interprétation. La fragilité de la vie. Et qu'au-delà de ça, et puis lui, il le sentait, je pense, il y a la bonté de Dieu, qui vaut plus même que ça. Alors une fois, je parlais à quelqu'un, et puis il me disait, mais David, est-ce qu'il n'est pas un peu suicidaire, le gars ? Hein, on pourrait se poser la question. Hein, finalement, mieux vaut mourir, finalement. La vie vaut plus la peine d'être vécue. Peut-être, je parlais durant notre séjour au Roumanian, là, cet automne, avec quelqu'un, sa fille, ou sa belle-fille plutôt, et les médecins. Et puis, elle aime aussi bien faire des liens entre la médecine et les psychiatres, quoi, et la Bible. Et pour elle, David était une personne qui vivait des dépressions. Voilà, donc c'était ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des passages noirs hein, de la vie de David, mais elle interprète, elle utilise aussi ça pour accompagner des gens qui vivent des moments de dépression. L'exemple aussi du roi David. Ce qui veut dire que c'est possible aussi que c'était des pensées qui pouvaient parfois aussi l'habiter. Donc il avait conscience aussi qu'au-delà de son être qui vit, hein, donc qui respire, qui jouit de la vie, il y a la bonté de Dieu, et puis que cette bonté de Dieu qui était, qu'il a vécu, qui est avec lui aujourd'hui et qui demeure aussi éternellement. Et c'est quand même assez incroyable, il arrive là dans une situation fragile, tout à coup il dit ta bonté vaut mieux que la vie, c'est presque ça, puis après on meurt, je ne sais pas, mais là tout à coup mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains, on lit des fois ça, hein. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi, je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Donc le désert ne lui donnait pas de nourriture, mais la bonté de Dieu rassasie David telle une nourriture succulente. C'est bon d'être avec Dieu. Et abondante, c'est généreux la bonté de Dieu. Hein, la bonté de Dieu est un délice. la bonté de Dieu est généreuse. Et le passage se termine tout d'abord au verset 7 par une invitation à penser à Dieu et à sa bonté, à méditer sur Dieu durant la nuit, mais de manière générale à s'arrêter. Et c'est vrai que c'est parfois uniquement la nuit, quand on est au lit, qu'enfin on peut s'arrêter, et peut-être qu'enfin on peut méditer sur Dieu pour être simplement avec lui, à méditer. Alors personnellement, je m'endors assez vite le soir, donc c'est rare que je médite Dieu sur mon lit, mais je peux m'imaginer qu'on ne dort pas bien, à peine à s'endormir. Ça peut être aussi l'occasion, si on arrive, hein, des fois ce n'est pas évident hein, quand on ne dort pas, mais de se dire, ben, je suis là avec toi Dieu. Que je dorme ou que je dors, je peux méditer sur toi. Je suis en train de lire un livre de Frédéric Midal, c'était un peu un best-seller, il est sorti je pense il y a 5-6 ans. « Foutez-vous la paix », ça vous dit quelque chose ?« Foutez-vous la paix », c'est un titre déjà un peu... Mais il parle justement de la méditation, mais pas d'une méditation bouddhiste, mais d'une méditation simplement d'être, de se permettre d'être à un moment donné sans devoir faire quelque chose, sans devoir déjà penser à quelque chose, sans devoir répondre à une attente à quelqu'un, mais juste « just to be hein, », comme disaient les Américains. Just to be. Et pour lui, il dit que c'est la vraie méditation, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'avec Dieu, c'est ça. Est-ce que Dieu nous permet, et c'est des fois nous-mêmes qui ne nous permettons pas, si on réfléchit honnêtement, de se dire, maintenant je prends un temps simplement être avec Dieu, dans sa présence. Même pas forcément lire la Bible, même pas forcément prier, mais d'être avec lui. Une qualité de relation, on peut être, ça peut être quelques instants, ça peut être une minute, ça peut être plus... mais se dire, je me permets d'être avec Dieu, juste là. Et ensuite, au dernier verset que j'ai lu, David, il s'écrit, « Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. » Et cette image de l'ombre de ses ailes, dans le désert, Dieu nous couvre de son ombre comme un aigle qui vole au-dessus de nous. Et je pense que dans cet environnement si hostile, d'avoir juste un peu d'ombre, c'était déjà quelque chose qui pouvait... lui permettre aussi d'être plus vivant et de pouvoir aussi exprimer sa joie. Donc ce deuxième « vaut mieux », il répond à une invitation à choisir vers qui on se tourne. En particulier hein, quand on traverse des déserts, quand on ne se sent pas ou plus beaucoup vivre, et se rappeler la bonté de Dieu, sa présence, c'est comme cet aigle qui vole au-dessus de nous et qui nous fait de l'ombre, qui est toujours là, qui veille sur nous et qui nous permet, même quand c'est difficile, de pouvoir exprimer notre louange à lui, de lui dire ben, « qu'est-ce que je ferai sans toi ? Ta bonté, c'est ce qui me permet finalement de vivre. Et même si je mourrai un jour, même si la vie devait m'abandonner, je sais que ta bonté ne m'abandonnera jamais, elle restera éternelle envers moi. » Et on va prendre un chant qui dit « Le roi de mon cœur », où on va parler de cette bonté. On va dire plusieurs fois que Dieu est bon. Alors ça va se dire un peu de manière « Dieu est bon, Dieu est bon ». Alors comment on fait quand il y a un chant qui est un peu comme ça ?« Bon, Dieu est bon, bon ». Après deux fois on se dit « C'est bon, on l'a déjà dit trois fois, quatre fois, ok, on l'a déjà dit, c'est bon, je sais ». Ça c'est une manière d'aborder les chants. Mais on peut aussi dire des fois il y a des choses qui doivent descendre dans le cœur. Et j'ai l'impression que des fois c'est ça, « Dieu est bon, ok, je le dis, Dieu est bon, Dieu est bon ». Ouais, c'est vrai en fait, ouais. Mais oui, t'es bon, tu commences à réfléchir à la bonté de Dieu et ça descend. Et je vous invite à prendre ce chant aussi, et si vous ne le connaissez pas, on n'est pas tellement un temps de louange, ça peut aussi être un temps d'écoute. Écoutez quand on chante ou les paroles et laissez-vous toucher par cette bonté de Dieu. Et au lieu de dire, on a déjà dit 10 fois la bonté de Dieu, comment Dieu a été bon? Est-ce qu'il vous montre quelque chose de nouveau sur sa bonté? Alors, le roi de mon cœur. Seigneur, merci pour ta bonté. Elle est non seulement réelle, présente, mais elle est infinie. Elle est abondante, comme on l'a lu, comme David l'a exprimé. Et ma prière, c'est que ta bonté si abondante, elle puisse nous envahir, nous accompagner toujours plus, qu'on la voie, mais aussi qu'elle nous emmène.
dans les lieux peut-être différents, dans des endroits qui nous, où nous ne sommes pas encore allés. On n'est peut-être pas encore allés au désert, mais peut-être des endroits un peu inconnus, un peu différents, qu'on n'a peut-être pas envie d'aller dans un premier temps, mais que ta bonté puisse être cette force qui nous fait passer, entrer peut-être aussi, aller vers autre chose, Seigneur. Ta bonté nous précède, ta bonté est derrière nous, ta bonté est avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es bon avec chacun de nous, Seigneur. Tu es bon avec chacun de nous. Et ta bonté, elle vaut mieux que la vie. Amen.
Le troisième « vaut mieux que », je l'ai trouvé aussi dans un psaume, un peu plus loin, le psaume 119, qui a la particularité d'être un psaume très long, c'est le plus long, 176 versets, et qui a la particularité d'être un auteur inconnu, ce n'est pas les fils Corée, ce n'est pas David, on ne sait pas qui c'est, et qui a une autre particularité, c'est que c'est tourné tout autour de la parole de Dieu. Quand j'ai lu ce psaume, je me suis dit, mais je comprends mieux pourquoi la Bible était là. La parole de Dieu. Et dans ce verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. » Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Dans ce psaume, vous l'avez certainement déjà lu, on a l'impression qu'il y a des répétitions qui disent plusieurs fois, j'aime ta parole, j'aime tes décrets, j'aime tes commandements, et il le répète d'une autre manière. On se dit, mais oui, mais pourquoi il est comme ça hein? Pourquoi il parle comme ça de la parole de Dieu? Et je pense que quand on lit ce verset 72, on comprend certainement mieux pourquoi l'auteur de ce psaume parle autant et de manière si différente et parfois un peu répétitive de la parole. Elle a une valeur inestimable. 1000 objets d'or et d'argent. Quand on sait le cours actuel de l'or, vous savez que l'or est très haut actuellement. Je ne sais pas si des gens investissent dans l'or, mais il faut le faire actuellement. J'ai pris, admettons que ces 1000 objets d'or soient des objets en or d'un kilo. Voilà, ça peut être aussi plus lourd, l'or, mais c'est encore léger, un kilo. Avec un prix du jour à 103 689 francs 87. Ça, c'est le prix d'un kilo d'or aujourd'hui, ou plutôt hier, quand j'ai écrit. 103 682 francs pour un kilo d'or. Donc, si on prend 1000 kilos d'or, les 1000 pièces, on arrive à 104 millions de francs. C'est déjà un bon pactole, 1000 objets d'or, et il y a de l'argent ici, dit aussi, mais ça a une valeur. Donc, c'est une immense valeur. Quand on parle d'argent, des fois, on parle des fois aussi que l'argent peut devenir un dieu, mammon, quand on est trop attaché à l'argent. Mais si Dieu et sa parole ont une valeur si importante, comme pour le psalmiste, ça a une valeur de dire, comme l'argent a telle valeur, la parole de Dieu a telle valeur, et ça nous impacte fortement, et ça nous conduit finalement à la crainte de Dieu, au respect profond de Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec un pactole de 104 millions? Je pense à ça comme ça. Est-ce que vous dites, ok, je le mets dans ma chambre, et puis je vais faire plein d'autres choses, et puis c'est pas grave, on peut peut-être le voler même, on peut le... On donne les dîmes à l'église, ouais, ça c'est une bonne... ça ferait déjà pas mal la dîme de 104 millions, on fait déjà 10 millions pour l'église. Mais on en prend soin, c'est un trésor, 104 millions. On ne fait pas n'importe quoi avec ça. Et comme, la comparaison a ses limites, mais comme on ne fait pas n'importe quoi avec 104 millions, on ne fait pas n'importe quoi avec la Bible. On la met en évidence, on la lit, on la médite, elle a des trésors. Et c'est la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Alors on l'entend de diverses manières. La Bible, lecture de la Bible, je pense que c'est la source principale. Mais ça peut aussi être dans la prière d'écoute, entendre la voix de Dieu, cette petite voix silencieuse dans notre cœur. Ça peut aussi passer par d'autres personnes qui nous parlent, même qu'ici, hein, c'est précisé la loi de ta bouche. Donc j'aimerais juste entendre la voix de ta bouche, Dieu, et pas trop des autres. Mais on sait aussi que Dieu peut nous parler par d'autres personnes parfois. Quelle valeur donnons-nous à une parole qui sort de la bouche de Dieu, hein? L'équivalent de 104 millions. C'est une valeur non seulement élevée, mais elle est sûre et durable. Il n'y a pas de cours. L'or, il est haut maintenant, mais peut-être dans une année, il sera la moitié moins haut. C'est une valeur sûre, durable, éternelle. Et c'est quand même intéressant, on se dit aujourd'hui, qui c'est qui lit encore la Bible dans notre société, qui c'est qui, quand on tient une Bible, on se dit, moi finalement, je suis un peu le seul dans mon quartier à avoir une Bible, ou peut-être que certains l'ont encore, mais ils ne la lisent pas, etc. Mais les statistiques donnent raison à la valeur qu'a la Bible. Encore aujourd'hui, la Bible, c'est le best-seller de tous les livres. On dit, c'est quand même incroyable, ce livre est le best-seller. On estime, c'est dans le Guinness des livres, hein, on estime qu'il y a eu entre 5 et 6 milliards d'exemplaires de la Bible ont été vendus. Entre 5 et 6 milliards. Et qu'il y a une impression annuelle de 80 millions de nouveaux exemplaires. Voilà, de production chaque année. Et ça continue et ça ne diminue pas. Hein. C'est même plus, je crois que c'est une augmentation. Donc la valeur, non seulement elle est valeur pour nous, mais elle a une valeur réelle qui est reconnue, qui traverse les âges, c'est la Bible. Donc avec ce troisième vaut mieux, nous sommes vraiment invités à répondre à la question « qui écouter ?» Qui écouter ? Comment nourrissons-nous notre intelligence, notre cœur, notre âme ? Par quelle lecture, par quel audio, par quel canot, tout ce qui entre. Alors ça peut entrer là, mais ça peut aussi entrer là. Mais à l'époque, c'était surtout là. Comme Dieu, par définition, est invisible, c'est quand même plutôt dans l'ouïe. Même qu'on peut imaginer aussi des choses de Dieu. Mais voilà, qu'est-ce qui entre, qui nourrit pour donner cette valeur à la parole de Dieu ? Avec le réseau, on a publié avant-hier un article sur la conspiritualité. C'est un nouveau terme, ça fait bien, conspiritualité. Donc c'est une contraction entre conspiration et spiritualité. Donc vous voyez un peu. Et une des questions qui vaut la... C'est une brochure publiée par le CIC, le Centre intercantonal des croyances. Donc c'est un centre qui a été créé avec Genève, Vaud, Valais et Tessin, sauf erreur, pour, je dirais, lutter contre les dérives sectaires, hein, en faisant cours. Et là, ils ont fait une étude pour dire voilà, quels sont un peu les risques de dérives conspirationnistes. Et ils ont utilisé le terme de conspiritualité, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent aller ensemble. Et puis, alors je ne vais pas entrer ici, ce n'est pas le sujet, mais une des questions qu'ils disent à se poser quand on est un peu, on ne sait pas trop, une information, on ne sait pas si on est un peu pris dans le truc, c'est toujours dire quelle est la source d'information. Ça, c'est une bonne question à se poser. Quelle est la source d'information ? Donc avec la Bible, nous savons que la source est en Dieu. Et quand on passe du temps avec Dieu pour l'écouter, nous comprenons aussi la valeur de cette parole, mais on exerce aussi à discerner quelle est la parole de Dieu au milieu de tout ce qu'on entend. Quelle est la parole de Dieu ? Qu'est-ce que j'entends ça ? Est-ce que ça colle avec ce qu'il y a là ? Est-ce que c'est pas un peu... je ne sais pas, hein, je prends un cas extrême, à un moment donné, s'il y a une violence qui est dit, à un moment donné... j'ai envie de tuer, donc il y a quelque chose à un moment donné qu'on doit, mettre quand même en relation ce qu'on peut des fois entendre, ce qui peut nous impressionner et ce qui est dans la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment pour moi, ça a été un des points dans cet article. Alors, l'article, c'était plutôt un peu un partage, le réseau a voulu partager cette publication en donnant aussi quelques éclairages par rapport aussi à cette idée de, d'écouter Dieu et puis de savoir aussi que retenir de ce qu'on écoute. Et dans ce même psaume, un peu plus loin, au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça, je crois que c'est le verset biblique qui est sur tous les logos de la Ligue pour la lecture de la Bible, sauf erreur, c'est leur verset phare. Donc, dans la nuit, hein, il vaut mieux avoir une lampe ou être éclairé par une lumière pour s'en sortir. Et sinon, bien, on reste sur place, on reste enfermé, on reste bloqué par la nuit. Donc on va prendre ce chant qui reprend cette parole vers qui se tourner, comme un phare dans la nuit. En conclusion, ces trois « vaut mieux que » exprimés par deux psalmistes, trois psalmistes dont un inconnu, David et les fils de Corée, ils nous aident à prendre conscience aussi tout à nouveau de la valeur inestimable de connaître Dieu et son amour pour nous. Ils nous aident aussi à répondre à ces trois questions finalement. Où aller ? Mais où aller ? La première réponse, comme David, aller dans la présence de Dieu. Alors, on pourrait discuter longtemps, ça veut dire quoi aller dans la présence de Dieu ? Je crois qu'il y a pas mal de possibilités. J'ai vraiment envie de dire, on peut aller partout dans la présence de Dieu. Si on veut être, il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Donc où aller ? Et parfois c'est nous qui devons aussi prendre conscience qu'il est là. Vers qui se tourner ? Vers Dieu qui est parfaitement bon. Vers qui se tourner ? Même quand on est comme David, fragile, assoiffé, dans un désert, la seule personne, parce qu'il n'y avait personne autour de lui, on s'imagine, c'était Dieu. Et il pouvait se tourner vers lui et le louer. Et finalement, qui écoutait ? La parole de Dieu. La parole de Dieu qui existe depuis si longtemps, qui n'a jamais disparu, qui s'imprime de plus en plus même. Elle traverse les âges et c'est par là que Dieu nous parle. Donc pour pouvoir faire ces choix dans la vie, de faire... Dieu nous laisse libres, responsables, nous avons besoin d'un quatrième « vaut mieux que » j'ai aussi, que j'aimerais ajouter ici, qui a été exprimé par Jésus devant ses disciples. « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est dans Jean 16, le verset 7. Et ce défenseur, on le sait, c'est le Saint-Esprit, celui que nous invoquons, celui que nous accueillons, celui qui défend notre cause devant Dieu grâce à l'œuvre de Jésus. Et c'est donc aussi lui qui développe en nous la valeur de sa présence et aussi finalement la capacité de le suivre en lui demandant de nous aider dans toute notre vie, dans les choix qu'on a à faire. Et ça commence aussi par ce conseil de Salomon que j'aimerais encore vous laisser ici. Finalement, les choix qu'on fait, ça commence ici. C'est rare que ça commence, en tout cas les choix importants, c'est rare qu'on les prenne sur un coup de tête. Ça commence ici. Et Salomon a dit quelque chose de très important, c'est un magnifique verset que vous connaissez aussi, je pense. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Donc là, ça commence. La présence de Dieu, la bonté de Dieu qui se manifeste en nous et que la parole de Dieu qu'on lit, qu'elle prenne racine ici dans notre cœur. Ça, c'est une manière de garder son cœur plus que toute autre chose. Et on va prendre encore ce chant pour illustrer aussi l'action du Saint-Esprit. C'est un chant qui dit « Descends sur nous ». Un chant du groupe EXO qu'on connaît, en tout cas certains connaissent parmi nous, qu'on a entendu récemment aussi à Genève. Descends sur nous.
Seigneur, tu combles nos cœurs d'espérance, Seigneur. L'espérance en toi, Seigneur, l'espérance en ta bonté. Face aux nouvelles désespérantes, Seigneur, nous voulons voir ton espoir, ton espérance, Seigneur, se manifester dans nos vies, autour de nous, Seigneur, dans notre Église, Seigneur. Qu'on soit un lieu d'espérance, Seigneur, comme ce phare dans la nuit, comme on a chanté, comme ce phare d'un port qui donne la lumière pour les bateaux qui arrivent. un repère, Seigneur. Que notre Église, que les églises de cette région soient des points de repère, Seigneur, pour les gens ici de cette région. Un point de repère, parce que tu es là et parce que tu accueilles chacun qui vient vers toi, qui se reconnaît pécheur, qui accepte ta grâce. Que tu sois un repère pour plus de monde, Seigneur. Un repère encore pour plus de monde ici, Seigneur. C'est notre prière. Nous soyons un peuple rempli d'espérance. Donne-nous l'audace aussi de pouvoir parler de cette espérance. Quand quelqu'un nous dit des fois « ça va pas, le monde va mal », de pouvoir dire ben, « voilà, moi j'ai une espérance aussi, je peux croire qu'au-delà de ça, il y a Dieu ». C'est pas que, que les décisions politiques qui ont le dernier mot, mais qu'il y a Dieu au-dessus de tout. Et Seigneur, nous voulons être des porteurs de cette espérance.